Studio Tamani, voici nos informations en français.
18h à Tigana, c'est dans le cercle de Bafoulabé. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres. Trois personnes sont mortes du choléra dans le cercle d'Onsongo au nord du pays. D'autres cas de la maladie sont signalés. Sur place, les médecins demandent l'aide du gouvernement pour contrer l'épidémie. Le bilan des 100 jours du Premier ministre Choguel Koukala Maïga est mitigé. Selon certains Maliens, ces derniers estiment que les lignes ne bougent pas. Pénurie des gaz butane depuis quelques jours à Bamako. Les raisons avancées par les revendeurs sont le non-paiement de plus de 10 milliards de subventions par l'État. Je suis Hamsi Touturé à la présentation, à la mise en onde Gagny Kanté. Des cas de choléra détectés dans des localités du cercle d'Onsongo dans la région de Gao. Depuis la semaine dernière, l'information est confirmée par le ministère de la Santé qui parle de deux cas dans un communiqué datant du 11 septembre 2021. Déjà trois morts ont été enregistrés et six cas en isolement, rapporte le médecin-chef du cercle d'Onsongo. La population inquiète demande l'appui des autorités pour éviter la propagation de la maladie. Les détails avec Adama Amadou Haïdara.
C'est à Labezanga, localité située dans le cercle d'Onsongo, que le premier cas est apparu. Les autorités sanitaires essayent pour le moment de limiter la contamination, mais expriment le besoin d'appui en termes de sensibilisation et autres moyens de prévention. Docteur Abdulaziz Meiga, médecin-chef à Onsongo.
Malheureusement, il y a deux ou trois jours de cela, il y a des cas suspects de maladie à choléra qui sont déclarés dans un centre de santé dans Labezanga, où c'est un parent qui a séjourné dans le village pendant 48 heures, qui avait quitté auparavant Ayuru, et juste de son passage 48 heures après, une jeune fille de 17 ans a succombé suite à des diarrhées et vomissements. Et commence le compte à rebours. Deux jours après, c'est un jeune garçon et une vieille qui décèdent et en isolement au CESCON de Labezanga. Aujourd'hui, nous sommes six malades actifs qui sont au niveau de l'île, qui sont isolés et qui sont pris en charge par nos services.
L'apparition de cette maladie inquiète les habitants de la ville d'Onsongo. Il demande au gouvernement une prise en charge rapide afin de contenir l'épidémie.
C'est une grande inquiétude, c'est juste un phénomène qui nous arrive, ce n'est pas notre souhait, mais quand même on fera avec, et puis compte sur Dieu et puis sur le gouvernement actuel.
C'est pas loin de nous, tôt ou tard ça peut venir, donc on doit prendre les précautions pour ça.
Nous avons vraiment peur à ce que choléra revient dans notre cercle.
En attendant, les spécialistes de la santé en appellent au sens hygiénique de la population, un des moyens efficaces pour faire face à la maladie.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux, à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Autre sujet, du nord au sud, en passant par le centre, les paysans rencontrent des difficultés avec la campagne agricole. Cependant, plus de 820 000 tonnes de coton graines et plus de 11 millions de tonnes de céréales sont attendues cette année par le Conseil supérieur de l'agriculture du Mali. Cette campagne qualifiée de prometteuse par rapport à 2020 par les autorités de la transition est confrontée à des difficultés liées à la pluviométrie mais aussi à l'insécurité. Le point dans ce reportage réalisé par Mamadou Samasekou.
Pour Aliou Diko, directeur régional d'agriculture de Gao, la campagne agricole est confrontée au nord à deux difficultés majeures. Il s'agit de la rareté des pluies et l'insécurité. C'est le cas à Bourra et Ouattagouna dans le cercle d'Onsongo, explique-t-il.
L'essentiel de la production agricole de la région de Gao, c'est dans le cercle d'Onsongo. Et c'est dans cette zone-là que l'insécurité fait beaucoup de problèmes.
Ces difficultés sont les mêmes que dans la région de Mopti. Sur la zone sablonneuse de Seno, comprenant les zones cultivées, cultivables de coro et bancas résistent actuellement à la sécheresse. Regrette Dadokouni, chef de division conseil et vulgarisation de la région.
Du côté des Mopti, Douanza, une partie de Guinée, c'est là où il y a beaucoup plus d'inquiétudes puisque les plants n'ont pas atteint un niveau satisfaisant de développement. L'insécurité a toujours impacté du début jusqu'à maintenant.
Cependant, dans la région de Sikasso, l'état des cultures est très satisfaisant. Nous confirmons la direction régionale d'agriculture de la localité. Mais le rythme des pluies a causé des inondations dans certains lieux, précise les responsables de cette zone de culture cotonnière par excellence. Maurice Silla, directeur régional de l'agriculture de Sikasso.
Malgré les inondations, malgré la quantité insuffisante d'engrais, nous comptons dégager un excédent céréalier commercialisable.
Malgré ces quelques difficultés, les acteurs agricoles espèrent que les prévisions faites en coton et céréales seront dépassées cette année lors des prochaines récoltes.
Une attaque terroriste a visé ce lundi un poste de l'armée malienne à Mahou, cercle de Yoroso, région de Koutiala. Au même moment, les attaques terroristes se multiplient contre des populations dans le centre du pays. Cette instabilité a provoqué le déplacement de centaines de personnes vers d'autres contrées plus sécurisées. Le point avec Fatih Attara.
Selon un communiqué des forces armées et de sécurité, c'est aux environs des 10h du matin que des terroristes ont lancé l'assaut contre les postes militaires de Mahou. Le bilan est de 2 militaires blessés, 2 assaillants tués, 91 motos, ainsi que des équipements militaires dont une radio et 4 boîtes de chargeurs récupérées, ajoutent les documents. Les forces armées de sécurité ont précisé dans ce texte que le ratissage est actuellement en cours. Au centre du pays, les villages de Bouyaguere, Bewani, Ponda Saba, Manidje, Nanzambougou, Zanakoro, Monkon, tous dans la région de Ségou, continuent de se vider de leurs habitants à cause notamment des menaces terroristes. En attendant, beaucoup d'observateurs estiment que la seule option pour ramener la paix aujourd'hui est d'entamer des vrais pourparlers avec les leaders des groupes armés présents dans la zone. Toutefois, d'autres pensent que les accords de non-agression entre les populations et les groupes djihadistes ont montré leurs limites.
Je l'annonçais dans les titres, 100 jours après la nomination du Premier ministre Choguel Kokalamega, son bilan à mi-parcours est diversement apprécié par les citoyens. De Kay à Koutiala en passant par Koulikoro, si certains pensent que les lignes ne bougent pas sur tout ce qu'il avait promis dans son péage, d'autres pensent en revanche qu'il a eu le mérite d'enclencher la lutte contre la corruption, suivant ce micro-trottoir réalisé par nos correspondants.
Pour les 100 premiers jours du premier ministre Choguel Kokalamega, presque on a rien vu. Mais depuis qu'il est venu, rien n'a changé. On peut pas dire qu'il a fait quelque chose.
Je suis une ménagère à Koutiala. Les mots pour lesquels Ibeka a été chassé existent toujours, comme l'insécurité, l'instabilité. Les enfants ne vont plus à l'école.
Par rapport aux 100 jours, la nomination de Choguel Kokalamega comme premier ministre, si je dois le voler, je dirais que le bilan est vite. C'est vraiment médiocre.
Ça ne tenait qu'à nous, Choguel n'allait pas accepter. Puis il a atteint un certain seuil de dépravation, un seuil où il serait très difficile, quelle qu'en soit la carrière d'un homme, quelles que soient les compétences, la connaissance d'un homme, de pouvoir le résoudre en un temps record.
Depuis quelques jours, on constate une pénurie de gaz dans la capitale malienne. Si les raisons sont ignorées par la population, les groupements d'importateurs de gaz expliquent l'arrêt d'approvisionnement par le non-paiement de plus de 10 milliards de subventions par l'État. Face à cette situation, des consommateurs invitent les autorités à s'impliquer davantage pour le bonheur des populations. Khalifa Goïta.
Les opérateurs de gaz dénoncent des factures impayées par le gouvernement. Difficile pour eux d'approvisionner le marché tant qu'ils ne sont pas mis dans leurs droits, explique Abdallah Babi, membre de la société interafricaine de gaz.
Les opérateurs gaziers ont pratiquement 19 mois à 18 mois d'impayés avec l'État. Plus de 10 milliards de francs CFA. Les opérateurs sont à bout de souffle. À l'État de nous payer, c'est tout. Si l'État nous paye aujourd'hui, nous allons réapprovisionner le marché avec cet argent-là. Sinon, si l'État persiste aussi, on ne peut que continuer dans cette logique-là. On ne peut plus continuer à nous endetter de façon exponentielle et ne pas être payé.
Cette pénurie de gaz butane impacte beaucoup les consommateurs et l'activité des commerçants détaillants de gaz.
C'est vrai, il y a manque de gaz et ça affecte tous les ménages. Surtout quand on nous demande d'utiliser moins du bois alors qu'il n'y a même pas de gaz. C'est délicat. C'est vraiment dur en ce moment. C'est de ce travail que j'arrive à nourrir ma famille. Le gaz butane est important, surtout en cette période hivernale où les bois de chauffe sont humides. Leur utilisation devient difficile. Je demande aux autorités de tout mettre en œuvre pour résoudre ce problème de gaz.
Le vendredi dernier, à l'issue d'une rencontre, le gouvernement a fixé le prix de la bouteille de gaz de 6 kg à 2910 francs CFA.
Le port du foulard est une réalité dans le monde en général et au Mali en particulier. Il est recommandé aux femmes aussi bien par la religion musulmane que chrétienne. Cependant, certaines femmes le portent par simple plaisir ou par tendance. Plus de détails avec Lala Aïcha Walet Infa.
Bon nombre de femmes portent le foulard de façon différente selon les religions et les tendances. Cependant, d'autres estiment qu'elles peuvent s'en passer, disent-elles.
Ça me plaît de porter et puis c'est une obligation de l'islam.
J'ai pas attaché de foulard parce que ma tête est tressée.
Je les porte à cause de la religion et les personnes âgées nous disent aussi que c'est pas bien qu'une femme laisse sa tête sans foulard. Il y a beaucoup de conséquences.
Oh, le mien, je l'ai oublié à la maison.
Dans la pratique traditionnelle, le foulard protège les femmes contre le harcèlement des hommes, comme l'indique Djadji Songo, communicateur traditionnaliste.
Une femme qui a une très très belle chevelure excite à tous les coups. Une femme qui a un corps doux et mou, sa vie excite à tous les coups. Donc c'est pour protéger de cette excitation-là. La tradition est fondée sur la religion. La vérité, c'est qu'une femme qui n'est pas couverte excite. Et si elle excite, ça entraîne Shaitan et toutes les voies de conséquences.
Comme en islam, le foulard est aussi recommandé chez les chrétiens. Par exemple, dans les périodes bibliques, les femmes chrétiennes portaient le foulard au point que les futurs mariés ne connaissaient pas qui ils mariaient. Comme le témoigne l'épisode de Jacob, qui, croyant épouser Rachel, se retrouve marié à Léa.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région. Violation, atteinte, abus et impunité, c'est le thème d'une causerie débat organisée le samedi dernier à Caille. Une vingtaine de personnes, notamment les représentants des associations de jeunes et femmes, ont participé à la rencontre. Il s'agissait pour les organisateurs d'échanger avec les jeunes sur les violations des droits humains. L'activité est organisée par Amnesty International Mali à travers le projet Observatoire citoyen contre l'impunité et pour la redevabilité, elle a été financée par l'Union européenne. Plusieurs dizaines de personnes venues de différentes associations ont participé hier à Koutiala à une marche de soutien à la transition. Selon les organisateurs, l'événement vise à réclamer au nom du shérif de Nioro la prolongation de la durée de la transition. Les manifestants ont remis leur déclaration au gouverneur de Koutiala. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute. Dans un instant, la question A. Le 22 septembre prochain, le Mali indépendant aura 71 ans. Une indépendance chèrement acquise, mais qui promettait un avenir meilleur pour un peuple affranchi des liens de la colonisation. Pour le journaliste écrivain Daouda Tegueté, cette souveraineté a été affirmée pendant 8 ans seulement, c'est-à-dire sous le premier régime. Il déplore que les régimes qui ont suivi n'ont pas su maintenir le rythme amorcé en matière de développement politique, social et économique. Daouda Tekete, journaliste, écrivain, est interrogé par Moussa Malé Sissoko. Cet entretien s'inscrit dans le cadre d'une série de productions sur le 22 septembre, fête de l'indépendance du Mali.
Du 22 septembre 1960 au 19 novembre 1968, on a vu que le Mali évoluait dans le sens d'affermir sa souveraineté nationale et internationale. Cela s'expliquait par le fait qu'en ce moment-là, le régime en place fondait essentiellement ses actions sur le plan politique, économique, social et culturel, d'abord et surtout sur les besoins et les intérêts des populations maliennes. Mais depuis le coup d'état de 1968, nous avons commencé progressivement notre dégringolade vers la crise actuelle que nous connaissons. En réalité, la crise actuelle que nous vivons dans notre pays n'est pas née seulement à partir de 2012, mais c'est depuis le coup d'état de 1968. Aujourd'hui, quand on regarde la situation du pays, des chiffres sont très souvent avancés, que notre taux de croissance économique reprend son ascension, mais au moment où de moins en moins les Maliens arrivent à satisfaire leurs besoins sur le plan alimentaire, sur le plan social, sur le plan culturel et sur le plan économique d'une manière générale. 75% du riz que nous consommons vient de l'extérieur et pratiquement 80% des produits de première nécessité que nous consommons également vient de l'extérieur. De 1960 à 1968, on était arrivé à faire en sorte que les besoins en matière de produits de première nécessité dans notre pays étaient satisfaits à 60% par la production nationale. Seulement, je dis bien, 40% étaient exportés. J'entends très souvent dire aujourd'hui encore que environ deux tiers du territoire territoire national échappent au contrôle de l'État. Et aujourd'hui, tous les continents du monde sont représentés à travers leurs forces de sécurité sur le territoire malien au nom de la défense des intérêts du Mali. Mais on a remarqué que depuis le coup d'État de 1968, la qualité d'homme au Mali dégringolait et s'est détruite progressivement pour nous donner aujourd'hui le type d'homme que nous avons. La corruption, elle est monnaie courante. Les écoles, souvent même on se demande, est-ce que nous avons une école? Rien ne marche à ce niveau-là également. Les années scolaires, on ne sait même plus quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit.
Quand donc fait de Maliens de leur souveraineté?
Ils l'ont bradé. Et regardez aujourd'hui, pratiquement sur l'ensemble du territoire national, partout où des ressources naturelles avérées existent, c'est des étrangers qui les exploitent. Comme si vraiment il n'y a pas eu avant nous des hommes et des femmes qui ont organisé leur société de telle manière qu'aujourd'hui encore, depuis des siècles, on continue à parler d'eux. Nous nous sommes en train de dilapider tout ça, y compris notre dignité, le fouler aux pieds. Il est temps que nous nous ressaisissions.
Que faut-il faire pour renouer le Mali avec son passé que beaucoup considèrent glorieux?
Puisons notre force dans notre histoire authentique. Regardons notre histoire avec nos propres yeux, au lieu de le regarder avec les yeux des autres. Ces autres qui ont intérêt à ce que nous restons dans cette situation, parce que ça les avantage et nous, ça nous désavantage. On peut très bien sortir de cette situation, même pas à un temps long, mais pourvu que nous acceptions de faire face aux vrais problèmes en cherchant la solution dans notre propre histoire.